Bonsoir, vous êtes bien sur Radio Campus pour une heure de politique dans l'émission Panthère Rouge, présentée par Lise, Claire et Cécile. Voilà, encore un mois de mai passé à battre le pavé. Ce mois-ci, en Europe et dans le monde, on n'a pas dérogé à la vieille tradition. Simplement parce que la situation actuelle nécessite encore, et peut-être plus que jamais, la mobilisation des citoyens, des travailleurs. Travailleurs de tous les pays, unissez-vous. Mais qui oserait aujourd'hui recourir encore aux vieux slogans internationalistes marxistes qui apparaissent vraiment éculés tant la complexité des enjeux mondiaux semble avoir brouillé les grilles de lecture et d'analyse des citoyens. Et quand bien même ceux-ci parviendraient à discerner les rapports de force à l'œuvre dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, c'est souvent le découragement et l'inertie qui l'emportent face à l'espoir de changer le système. On se dit, c'est comme ça, alors à quoi bon ? Mais pourtant, quel rapport peut-on établir entre les Grecs qui ont massivement défilé dans la rue ce 1er mai contre le plan d'austérité qui leur est imposé, les agriculteurs sud-américains et européens du mouvement Via Campesina qui occupaient les rues madrilènes le 16 mai pour protester contre des accords de libre-échange signés entre l'UE et l'Amérique latine, ou bien encore les salariés français manifestant jeudi dernier pour sauver leur retraite? Pas grand-chose a priori, si ce n'est peut-être le mince espoir qu'il existe une alternative, que les lois de l'économie ultralibérale ne sont pas dictées par un déterminisme naturel auquel nous serions tous appelés à nous soumettre, à l'instar des lois de la gravitation par exemple, et qu'il appartient véritablement aux politiques, et donc à nous, citoyens qui détenons la souveraineté, d'en reprendre le contrôle. Rien si ce n'est peut-être une capacité de résistance contre le dessaisissement du pouvoir décisionnaire au profit d'instances non légitimes parce que les citoyens n'y sont pas représentés. Et c'est bien la capacité de fédérer un véritable mouvement social européen, voire mondial, qui déborderait le cadre des États-nations pour répondre aux problèmes posés aujourd'hui à l'échelle planétaire qui est en jeu dans ces différents mouvements qui apparaissent a priori disparates et dispersés. Parce que si la mondialisation économique et financière a ses acteurs, aux intérêts clairement identifiés, aux capacités d'organisation à l'échelle planétaire, à ses instances d'arbitrage, de décision, à un marché de consommation, à un marché du travail, eh bien la mondialisation des luttes sociales, elle, tarde à émerger. Pour quelles raisons ? Par exemple, parce que l'atomisation des sociétés, le délitement des solidarités traditionnelles dans le monde du travail, par exemple, ou bien leur ancrage dans des cadres nationaux, rendent très difficile la constitution d'un mouvement social mondial. Et puis surtout, quels projets, quels intérêts communs entre le consommateur européen, l'ouvrier du textile chinois et le paysan du Chiapas ? Si nous cessions d'être considérés ou de nous considérer nous-mêmes comme des consommateurs avant d'être considérés comme des travailleurs, ces intérêts communs nous sembleraient peut-être bien plus clairs, bien plus cohérents, tant au niveau des conditions de travail que des salaires, que des retraites par exemple. La possibilité d'une résistance commune passe donc peut-être par la reconquête de notre identité de travailleur avant celle de consommateur. Voyez par exemple comment on nous considère avant tout comme des consommateurs, en nous parlant de pouvoir d'achat au lieu de nous parler de salaire, en nous parlant du moral des ménages mesuré à l'aune de la consommation. Dès lors, travailleurs de tous les pays, unissez-vous. Contre l'accaparement des terres, par exemple, un problème qui nous concerne tous. Nous interrogeons sur ce sujet Céline Porcheron, qui est ingénieure en agroalimentaire et en agronomie tropicale et militante altermondialiste. Céline Porcheron qui devrait arriver sans tarder, même si aujourd'hui l'accès au studio de Radio Campus est quelque peu encombré par la foule des Clermontois. Puis nous retournerons en Grèce justement avec Claire qui éclaircira les origines de la fameuse dette et les enjeux des négociations autour de sa réduction. Et c'est enfin avec Marie Curie que nous terminerons l'émission. Marie Curie qui, donc femme de science bien sûr, qui n'était pas seulement la femme de son mari. Alors en inversant un petit peu l'ordre de notre programme pour donc des raisons de victoire d'une équipe de rugby, nous allons commencer donc avec Claire qui va nous parler de la dette de la Grèce.
Merci.
êtes bien dans l'émission Panthère Rouge sur Radio Campus 93.3. Bonjour Claire.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de cette fameuse question de la dette.
De la dette. Alors voilà, dans l'idéologie capitaliste, lorsque l'on prête de l'argent, il est de morale que la somme rendue soit plus importante. C'est le métier des banques, par exemple, elles prêtent de l'argent et en échange, on leur donne plus d'argent. Et grâce à la merveilleuse invention du taux d'intérêt. Donc c'est le premier paradoxe capitaliste. Ceux qui ont de l'argent, au départ, eh ben, ils en auront plus encore, alors que ceux qui n'en avaient pas spécialement, ils vont devoir produire encore plus de valeur pour pouvoir rembourser. Et ça, dans l'idéologie capitaliste, c'est normal, c'est accepté, ça ne choque personne. Pourtant, moi, ça me choque un petit peu, surtout lorsque l'on prend tout un peuple en otage pour rembourser une dette qu'ils n'ont pas décidée. Alors, on va prendre l'exemple de la France. La dette, ça a commencé avec le bas niveau d'impôt sur le revenu, le capital, le profit des entreprises et l'évasion fiscale. Il n'y avait pas assez d'entrée d'argent et à la place d'augmenter les impôts, ils ont emprunté. Donc le mécanisme est simple, le gouvernement commence à emprunter à ceux qu'il renonce à taxer en plus, avant de les protéger ouvertement de l'impôt. Donc c'est ce que Sarkozy fait par exemple, ça a été fait avant. Puis continue. Donc le service des intérêts opère ensuite un transfert de richesse au bénéfice des détenteurs des titres de la dette, donc aux riches. Et les institutions détenteurs des titres de la dette donc, continuent à voir leur pouvoir économique et politique se renforcer. Donc ces institutions, c'est les grandes banques, les sociétés d'assurance, les fonds de placement financiers, qui peuvent donc dicter la politique du capital au gouvernement et qui peuvent se cacher derrière l'obligation morale d'honorer les dettes. C'est le gouvernement qui se cache derrière cette obligation morale. Donc la dette du pays n'a pas toujours été aussi importante. Si elle représente environ 80% du PIB en Europe aujourd'hui, elle était plutôt à 20% dans les années 80. Donc la montée de la dette a suivi la libération financière qui s'intensifie justement dans les années 1980. En 1982-83, le gouvernement de l'Union de la gauche, alors c'est marrant, c'est de la gauche, le gouvernement de l'Union de la gauche introduit des mesures permettant le placement des faits émis par le Trésor sur le marché. Et à partir de là, l'augmentation de la dette va s'accélérer. C'est 20% en 1980, 35% en 1990, 67% en 2007 et aujourd'hui c'est autour de 81,5% en 2010. Donc ce bond de l'augmentation de la dette qui a donc commencé en 1980, on va revenir là-dessus, avec l'indemnisation, a commencé avec l'indemnisation des nationalisations. Donc c'était des cadeaux faits aux grands groupes pour socialiser les pertes, restructurer les grandes entreprises et puis ensuite les rendre rentables pour le secteur privé. En 1987-81, il y a eu la loi de programmation militaire. Donc on a acheté des rafales, des porte-avions, des sous-marins nucléaires et tout ça, ça a demandé beaucoup d'argent. Donc la dette s'est encore... accru. En 1991, c'était l'effet conjugué des taux d'intérêt élevés et la croissance lente, qui est due à la mise en place de l'euro, qui a encore intensifié cette dette. Et donc là, le service des intérêts de la dette, il faut aller savoir que c'était la seconde dépense de l'État après l'éducation nationale et au-dessus de tous les autres ministères. Donc, on donne plein d'argent à la dette. C'est bien de payer des impôts pour savoir qu'on paye la dette.
Un petit peu comme les pays africains, finalement.
Voilà, comme les pays africains. Donc, dans les années 2000, le dérèglement financier a accentué les effets de la fiscalité favorable au capital. Donc, je veux parler des évasions vers les paradis fiscaux, la délocalisation systématique des sièges sociaux des entreprises. Donc, vu que... Du coup, on touche moins d'argent des entreprises et donc les recettes fiscales diminuent. Et puis en plus, donc on a moins d'argent et puis l'État il nous dit l'endettement, c'est mal, c'est pas bien pour le futur. Donc il va falloir réformer tout ça, il va falloir réformer l'État et faire des coupes budgétaires. Donc démantèlement de la fonction publique, de la santé, de l'éducation, tout ça. Ça, on a vu ça ces dernières années. Donc la dette va exploser avec le plan de sauvetage des banques et des entreprises en 2008-2009. Et voilà, si aujourd'hui, le remboursement de la dette représente 12% du budget de l'État. C'est énorme. Alors, j'en étais où ? Ah oui, un autre chiffre qui est assez flippant, c'est donc en 2009, le service de la dette aux banques et aux fonds de placement a absorbé la quasi-totalité de l'impôt sur le revenu. Enfin, c'est équivalent. Et ça a été plus élevé que les recettes de l'impôt sur les sociétés. Donc c'est des petites choses qu'on ne sait pas du tout. Et puis quand on l'apprend, ça fait quand même plaisir. Donc si on considère que... Par rapport à cette dette, si on considère que son origine vient du refus de taxer les hauts revenus, le patrimoine, les profits, ses liens étroits avec les paradis fiscaux et la concurrence fiscale, trois, de la destination d'une partie des dépenses pour les armes, enfin, si on considère ces choses-là, on peut considérer que cette dette est illégitime et... que c'est pas correct, qu'on se doit de refuser de payer cette dette. C'est pas une question de savoir si elle est trop élevée ou non, c'est une question qu'il faut l'annuler. Et alors, je sais pas si vous entendez les klaxons derrière. Donc en 2000, en Grèce, maintenant je vais parler de la Grèce un petit peu. Donc en 2007, avant l'éclatement de la crise, la dette représentait déjà 94% du PIB. Donc les mécanismes de la dette grecque sont semblables à ceux qui sont en France. On emploie cependant ici le terme de dette odieuse, donc terme utilisé pour utiliser la caractérisation donnée à la dette dans les pays qu'on appelait les pays du tiers-monde. Puisqu'il est clair ici que les sommes empruntées ont servi à organiser la corruption à très grande échelle. Le gouvernement grec a truqué les chiffres de dépenses de l'État. Et là où les chiffres sont connus, on a affaire aux dépenses élevées dans l'armement ou aux Jeux olympiques. Donc des dépenses très intelligentes qui servent le peuple énormément. La combinaison entre l'endettement externe contracté à l'égard de banques et de fonds de placement appartenant au même pays que les entreprises, qui vendent les armes. Donc cette liaison justement entre le fait que c'est par exemple la France qui va prêter de l'argent à la Grèce et en même temps c'est la France qui vend des armes à la Grèce, ça a quand même un fort parfum d'impérialisme. On peut voir ça comme ça. Donc les médias français ont fait un grand cas de l'exposition élevée au risque des investisseurs de la dette grecque. Il faut dire que selon les chiffres, suivant les agences, c'est jamais les mêmes, tellement la fiscalité est sombre et c'est impossible
d'être.
Et opaque. Et voilà, suivant les agences, c'est jamais les mêmes chiffres, mais suivant une des agences, c'était plus de la moitié qui appartient au fonds de placement, un peu moins de la matière qui appartient aux banques et une toute petite part qui appartient aux banques centrales. Donc les banques centrales, c'est plus sûr. Et puis le reste, c'est pas sûr de ce qu'ils vont faire avec leurs titres. Donc la Grèce est en danger. Mais heureusement, la France est là pour aider la Grèce. Ils ont dit, la France, allez aider la Grèce, c'est génial. Et le ministre du budget, Baroin, a tout de suite précisé que cette aide ne coûtera rien aux contribuables français. Merci, on avait peur. Et en plus, pour une fois, le gouvernement ne nous a pas menti. Effectivement, ça ne va rien nous coûter, puisque, en fait, pour l'argent qu'on a élevé à un taux d'intérêt de 3%, on va le prêter à la Grèce avec un taux d'intérêt de 5%. Donc, cette aide, cette solidarité va rapporter à l'État de l'argent, enfin français, hein, pas grec, c'est, voilà. Donc on est vraiment trop trop gentils avec eux. Et puis en plus, il faut dire qu'on n'emprunte pas de l'argent comme ça, il faut négocier des mesures. Et donc le FMI et la Banque Centrale Européenne a bien précisé qu'il fallait qu'il y ait des mesures, des réformes. Et ces réformes, par exemple, c'est le gel des salaires et des retraites de la fonction publique pendant 5 ans. Au niveau des retraites, qui était de 65 ans pour les hommes et 60 ans pour les femmes, celui-ci va être lié à l'espérance de vie moyenne. La durée du travail pour avoir une retraite pleine passe de 37 à 40 ans en 2015.
La... Et la foule acclame la chronique de Claire.
Acclame la chronique.
Et voyez comment voilà. Ils sont mobilisés pour sauver la retraite à 60 ans.
C'est fou. Oui, la baisse du cumul se fait sur l'ensemble des salaires et non sur le dernier salaire. La TVA va passer de 21% à 23%. Les taxes sur l'alcool, le tabac, le carburant augmentent de 10%. La santé et l'éducation va avoir un budget réduit de 1,5 million d'euros. L'ouverture à la concurrence des professions fermées. Bref, tout un tas de mesures que le FMI a imposées à la Grèce. Et voilà. Et alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va pas marcher. L'économie grecque va pas du tout s'en sortir, puisque de ces mesures, les gens seront de plus en plus pauvres, tout simplement. Et que quand les peuples d'un pays est pauvre, et ben l'économie marche mal. Et on comprend bien que c'est un cercle vicieux et que ça va pas du tout marcher. Et voilà. On dit bonne chance à nos amis grecs et puis bon combat. Et on enchaîne avec une pause musicale. En écoutant la fanfare. Donc vous écoutez Radio Campus, émission Panthère Rouge, et on reprend, donc je vous salue, bonjour, ce n'est pas Claire mais c'est Lise qui est au micro. Et donc on va enchaîner avec Céline Porcheron qui est avec nous, bonjour Céline.
Bonjour. Donc, comme on disait dans l'intro, tu es ingénieure en agroalimentaire et en agronomie tropicale et tu es militante altermondialiste. Et puis, tu as eu plein d'expériences un peu partout dans le monde, notamment en Amérique du Sud, au Brésil, c'est ça ?
Oui, essentiellement en Amérique latine.
En Amérique latine.
Au Brésil, au Guatemala, à Cuba.
Et donc, on a abordé à la dernière émission le problème de l'accaparement des terres. Donc, je rappelle un peu, en fait, on avait vu l'absurdité de ce phénomène. Le fait que, en fait, une petite centaine de pays et des institutions financières achètent de grandes superficies de terres agricoles au bout du monde pour nourrir les populations de leur pays, quoi. Et on avait évoqué le discours qui accompagne, donc celui du FMI et celui des États, qui était que c'était une transaction gagnant-gagnant, que les pays sur place trouvaient leur compte, puisqu'on apportait des technologies. On a apporté des connaissances. Et alors, j'aimerais savoir si toi, tu sais comment ça se passe localement. Est-ce que les populations tirent vraiment profit de ces transactions ?
Alors moi, ce que j'ai entendu dire, surtout en Afrique, en fait, c'est que, par exemple, quand les Chinois arrivent, ils vont occuper une grande partie, enfin, vont occuper un certain nombre de centaines ou d'hectares ou de milliers d'hectares. Et ils vont non seulement amener la technologie, mais ils vont aussi amener leur personnel. Et ils vont travailler essentiellement pour leur marché, évidemment. L'idée, c'est de pouvoir exporter des produits vers chez eux pour avoir plus de marchandises. Mais ils ne vont pas du tout transférer en fait, les technologies au niveau local. Et puis surtout, ils ne vont pas valoriser en fait, déjà les connaissances qui existent localement. Le problème pour la valorisation, par exemple, des terres africaines, c'est pas un problème fondamentalement de technologie. C'est d'abord un problème d'accès à des moyens de travail, à des moyens de production. Il y a de la terre, mais les Africains n'ont pas les moyens de la travailler, de la mettre en œuvre, de la mettre en valeur. Parce que les politiques, il n'y a pas de politique agricole, en fait, dans les États. Il n'y a plus de politique agricole dans les États africains.
Qu'est-ce qui manque, en fait qu'est-ce qui manque pour...
Ben, il manque un accompagnement, par exemple, vulgarisation agricole. Il manque un accompagnement des producteurs. Il manque simplement l'accès à du crédit. Un crédit tout simple, hein, pour au lieu de travailler avec des morceaux de bois, en fait, hein, avec des pioches, des pelles, pouvoir travailler avec un attelage, par exemple, un minimum de matériel attelé, on va dire, un peu d'irrigation, construire des buttes, construire des choses assez simples, en fait, mais qui demandent quand même un petit peu d'investissement. Et donc, il n'y a déjà pas les moyens de vivre et les moyens de payer, par exemple, l'école qui est devenue payante, la santé qui est devenue payante depuis les politiques de libéralisation du FMI. Et donc, s'il faut investir... Ça demande de mettre de l'argent de côté.
Oui, c'est pas le cas.
C'est pas forcément évident déjà d'investir. Et en plus, quand les producteurs investissent, ce qu'on a vu dans le cadre, par exemple, du poulet au Cameroun, il y avait quand même un développement qui a eu lieu à partir des investissements au niveau de la production du poulet de petits producteurs. Mmh. Toute une filière avait été mise en place pour la production d'aliments du bétail, donc de soja, de maïs, tout ça, pour pouvoir alimenter les poulets. Il y avait tout un réseau qui fonctionnait. Et puis les poulets se sont retrouvés sur les marchés locaux en concurrence avec des poulets importés, des bas morceaux, en fait, nos déchets à nous, hein, congelés, qui arrivaient à très bas prix et qui ont complètement cassé le marché local.
Ouais.
Donc il y a un problème après de déboucher.
D'accord, on a une difficulté.
Ça veut dire, en fait, la base, en fait, hein, c'est un problème de politique agricole.
Ouais. Si on revient sur l'accaparement, les gens qui viennent en Afrique n'apportent pas de technologie, c'est juste finalement, en tout cas pour le cas des Chinois, c'est juste un déplacement de population, c'est ça ?
Ils apportent une certaine technologie parce qu'ils ont l'habitude de travailler par exemple sur le riz, donc ils vont aussi apporter du matériel.
Mais ce que tu disais, c'est qu'ils la gardent pour eux puisque ils n'embauchent pas les gens sur place, quoi.
Ils embauchent un peu des gens pour travailler, ils peuvent embaucher en partie du monde sur place, mais ils ne vont pas embaucher des techniciens, ils vont embaucher des ouvriers agricoles.
Ouais.
Qui vont juste être des opérateurs de base, quoi.
Et au niveau environnement, est-ce que les méthodes apportées posent des problèmes ?
Au niveau environnement, ça va être des productions sur des grandes surfaces et plutôt de la monoculture. Donc forcément, quand c'est de la monoculture, derrière, il peut y avoir des soucis à long terme. En plus...
Des soucis d'épuisement des sols.
D'épuisement des sols, oui. Ils peuvent apporter de l'engrais chimique plutôt que d'apporter de la matière organique pour avoir un rendement élevé tout de suite. Utiliser aussi des techniques, utiliser des pesticides, puisque l'objectif, c'est de produire beaucoup. C'est pas de produire de manière durable. Parce qu'à la limite, une fois que la terre sera plus très utile, on pourra aller voir ailleurs. C'est ce qui se passe au Brésil, par exemple. On peut dire, à l'intérieur, on pourrait comparer en fait ce qui se passe en Afrique avec des investisseurs étrangers qui viennent s'accaparer de terres africaines qui ne sont pas ou peu utilisées par les Africains eux-mêmes et qui sont vendues par les chefs d'État corrompus à des multinationales ou à des États, à d'autres États, ou à des grands groupes. On pourrait comparer ça avec ce qui se passe au Brésil, où c'est les grands propriétaires et les multinationales qui sont apparés de terres à l'intérieur du pays, dans un même pays en fait.
Ouais. Et là, mais il y a aussi le phénomène d'accaparement, ce qu'on avait vu aussi il y a deux semaines, c'est qu'il y a aussi ce phénomène d'accaparement, notamment les Chinois et les Japonais, voilà, qui viennent au Brésil. Quoi. Ils ont la double peine, les Brésiliens.
Ah oui, les Brésiliens ne sont pas servis. Là. Mais ce qu'on voit au Brésil, c'est qu'en fait, il y a toujours eu une politique de frontière agricole où des grands propriétaires sont appropriés les terres. Ils les travaillent ou ils les font travailler. Et puis, quand elles sont épuisées, ils vont voir ailleurs. Jusqu'à maintenant, c'est ce qu'ils faisaient. Et ce qui fait qu'il y a une frontière qui gagne au niveau, par exemple, de l'Amazonie. On est en train de déforester massivement l'Amazonie pour produire du soja. Derrière, de l'élevage bovin. Tout ça à destination de l'exportation. Donc, et ça, c'est des grands propriétaires qui vont utiliser massivement des machines et pas des personnes, puisque là, c'est de la monoculture, mais sur des milliers d'hectares, des centaines de milliers d'hectares. C'est énorme les surfaces qui sont travaillées et en une seule culture qui va être massivement en fait du soja qui sert à nourrir les porcs, les volailles et les vaches laitières dans le système intensif à travers toute l'Europe, surtout sur les côtes, puisque ça arrive par bateau. Et puis, d'autre côté, en Chine, de plus en plus en Chine. Alors, les Chinois, ils ont raison aussi d'investir et puis d'aller, tant qu'à faire, plutôt que d'acheter du soja, aller le produire au Brésil et puis aller produire du poulet aussi au Brésil.
Bien sûr, ils ont raison, c'est la logique.
C'est la logique. Enfin, je veux dire, si on est dans une certaine logique, allons-y, quoi. Et du coup, la même chose pour nos groupes chez nous, si on peut se permettre de dire
oui,
ça.
Oui, justement, en fait, j'ai eu peu d'informations sur ce qui se passe, l'implication des groupes français ou européens.
Par exemple, Doux, qui est un gros groupe de production de poulet, ils ont déjà délocalisé au Brésil.
D'accord.
Pourquoi s'embêter à produire avec des travailleurs français qui coûtent très cher en important massivement du soja en Bretagne, en polluant, en ayant après à gérer derrière les problèmes de la pollution, avec la concentration des élevages de volailles, et puis des contraintes aussi sanitaires générées par nos lois spécifiques en Europe. Et puis pourquoi pas les produire au Brésil directement, où là on a en fait la base, c'est l'alimentation. Donc on a le soja, on a de la chaleur, donc on dépense moins aussi en énergie. Et puis on a de main-d'œuvre qui coûte pas cher. Et puis la loi, elle est beaucoup plus facile à détourner. Donc ça revient beaucoup moins cher. Et du coup, après, on réexporte ces poulets.
Oui, bien sûr.
Alors la bagarre, elle est sur faire tomber les quotas d'importation, parce qu'il y a quand même des quotas qui limitent les importations. Et ce qui font qu'aujourd'hui, les poulets, ils arrivent pas sous forme de poulets frais ou de poulets congelés. Les poulets, il y a des poulets qui arrivent hors quota et qui arrivent en fait sous forme macérée, saumurée en fait. C'est-à-dire conservée dans de l'eau salée. Et ça rentre pas dans les quotas de poulets frais.
C'est ça qui sert
à faire les cordons bleus par exemple. Les nuggets, tout ça là, tous les trucs
non,
texturés.
Non, c'est bon, je mange plus ça, c'est bon.
Ah, si vous en mangez, lisez bien les étiquettes. Si c'est marqué viande reconstituée, si c'est fait à partir de viande saumurée, ça veut dire que ça arrive du Brésil déjà,
D'accord.
ou d'Argentine éventuellement, et ça veut dire que ça a été bien travaillé par l'industrie agroalimentaire.
C'est intéressant parce qu'on a tendance à penser que les pays qui font ça, qui vont ailleurs, c'est ceux qui manquent de terres, d'espace agricole. Et là, typiquement, la France, il manque pas d'espace, on a ce qu'il faut, mais il y a quand même cette logique d'aller délocaliser.
Ça dépend comment on considère notre espace. En fait, on va dire qu'on manque d'espace par rapport à la production de l'alimentation animale. Parce qu'en fait, on consomme quand même beaucoup, beaucoup de viande en Europe, en France en particulier. On est à 95 kilos à peu près par an, par personne et par an, équivalent carcasse, donc avec les os. Et du coup, toute cette viande, on n'a pas
encore,
forcément...
Et encore, on ne parle pas des rugbymen, enfin bon, bref, vas-y.
Ah oui, le rugbymen, c'est normal, mais eux, ils font monter la moyenne. Il y en a d'autres qui sont végétariens quand même, qui font baisser. Donc, entre les rugbymen et les végétariens et les végétariennes, on arrive à une moyenne, une centaine de kilos par personne et par an. Et du coup, cette viande, en fait, si on veut la produire en plus pas trop cher, ils ont trouvé qu'il fallait du concentré, en fait, en protéines. Et un élément essentiel, c'est le soja. Si on fait manger une vache simplement de l'herbe, ce qui est tout à fait possible, hein, pour qu'elle donne du lait. C'était la logique avant. Une vache mangeait de l'herbe, elle donnait du lait. Elle avait un veau d'abord, et puis elle donnait du lait. Ben aujourd'hui, si on veut que notre vache ne produise pas 6 ou 8 000 litres de lait par an, mais 10 ou 12 000, comme les Holstein, il faut absolument lui donner un concentré de protéines et d'énergie. Donc c'est du soja avec du maïs. Le maïs chez nous qui pompe l'eau et qui fait qu'on pollue massivement nos nappes phréatiques avec des pesticides, enfin surtout des herbicides, ouais, pour traiter le maïs. Et puis le soja donc, qui arrive massivement d'Amérique latine ou d'Amérique du Nord et qui est aujourd'hui de plus en plus OGM. Donc ces deux-là, ça sert à faire une partie du sucre et des protéines, un aliment très concentré qui nous permet d'augmenter fortement la production de lait. Donc on a du coup un lait qui n'est pas cher pour l'industrie agroalimentaire, qui permet derrière de développer pléthore de produits. Mmh. Et on retrouve ça donc avec le poulet, avec le porc. On a des animaux aujourd'hui vendus très peu chers. Pour les producteurs, c'est très difficile de vivre de ce travail. Ils sont en concurrence les uns avec les autres, entre les Belges et Hollandais, tous ceux qui sont sur les ports, qui peuvent avoir l'aliment pas cher qui arrive du Brésil. Et maintenant, ils sont en concurrence à l'intérieur des entreprises entre les systèmes européens et le système, par exemple, brésilien, voire l'autre système aussi qui s'est beaucoup développé, c'est la Thaïlande. Et les Thaïlandais aussi exportent du poulet un peu partout.
D'accord. Et on peut faire tout ça, quoi. Et ouais, j'avais une question magique, hein, sur le bio. Est-ce qu'on peut considérer que des poulets qui ont poussé au Brésil sont bio, ou est-ce qu'on peut retrouver des trucs un peu farfelus comme ça, qui sont labellisés ou enfin qui sont présentés comme bio?
Oui, il y a du bio. Au Brésil, on peut produire bio. Il y a un organisme de contrôle là-bas aussi, qui est essentiellement destiné à labelliser pour le marché local, parce qu'ils ont aussi une alimentation à deux vitesses. Hein. Il y a aussi un système propre au Brésil quand même, hein, qui sert à nourrir la population. Mais il y a aussi un business sur le bio qui fait qu'on va exporter. Certains vont aller s'implanter dans des pays étrangers pour développer le bio, pour exporter sur l'Europe,
voilà,
ou là où il y a des marchés quand même. Mais c'est pas trop le Brésil en fait. Hein. Ça va plutôt être des pays d'Europe de l'Est, voire le Moyen-Orient, le Maghreb.
Le Kenya, j'ai vu beaucoup d'haricots du Kenya.
Ouais, mais ils sont pas bio. Hein. Non. Ils ne sont pas bio, ceux-là. Mais par contre, du Brésil, il y a une filière sans OGM qui s'est montée aussi. Filière soja sans OGM.
Tu fais peur un peu quand tu me dis ils ne sont pas bio, les haricots. J'ai un peu peur de savoir.
Bah, le problème, il n'est pas tellement sur le bio par rapport aux haricots verts. Le problème, il est sur le fait qu'on les fait venir en avion et que les personnes qui travaillent là-bas, elles travaillent nuit et jour sous des lampadaires. Que c'est des femmes qui sont payées $1 la journée. Elles vont à pied travailler, elles font des kilomètres pour aller soit ramasser les haricots dans les champs, soit travailler à l'usine, parce que vous avez vu que les haricots verts, ils sont dans les petites barquettes, hein. Ils ont été découpés, bien rangés et tout, et ça coûte beaucoup moins cher que les haricots verts qui sont produits et ramassés en France. Au Biojardin, par exemple, à côté à Jarza, qui fait du bio, il avait calculé en fait combien ça lui revenait, lui, un kilo de haricots verts. Simplement pour ramasser ça en main d'œuvre, ça lui coûtait déjà 5 euros. Un kilo, 4-5 euros pour ramasser en fait, hein. Et du coup, bah, ils ne pouvaient pas le vendre en dessous d'un certain prix. Or, là-bas, c'est 1 euro la journée de travail.
Ouais, facile.
Donc on peut imaginer voilà, la comparaison, même avec l'avion, même avec tout le bazar.
Et alors, je voulais aussi profiter un peu de tes voyages, de tes rencontres, pour savoir si tu connaissais les mouvements de communautés paysannes qui se mobilisent, les mouvements des sans-terres et des choses comme ça.
Alors moi, j'ai travaillé en fait quelques temps avec les paysans sans terre au Brésil, le mouvement qui s'appelle le MST, le mouvement des paysans sans terre. Et donc, il y a un mouvement pionnier, on va dire, hein, parce que ça date de la fin des années, au début des années 80 en fait.
Ouais.
Des bagarres qu'il y avait eu sur la terre déjà à l'époque, hein, dans les années 70, qui ont participé en fait à la chute de la dictature au début des années 80 au Brésil. Et qui est devenu un mouvement très très puissant au Brésil, et en fait le mouvement le plus radical qu'on puisse trouver, qui vraiment est un défi permanent à tout gouvernement brésilien. Donc quand moi j'étais, c'était un gouvernement de droite, c'était Cardoso, qui déjà tapait fort sur les sans-terres. Les sans-terres à ce moment-là étaient relativement proches du parti de Lula, le parti des travailleurs, qui est aujourd'hui au pouvoir. Alors ils n'ont pas tout le pouvoir, c'est un peu là le souci. Lula, le président, et du Parti travailleur, mais l'Assemblée nationale, le Sénat, et puis après, chaque gouvernement, il y a 27 États, donc voilà, il y a des gouverneurs.
Et puis je pense qu'il y a de la corruption aussi.
Il y a beaucoup de corruption, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans le Parti des travailleurs aussi pour avoir une place au soleil, si on peut dire, un peu comme notre Parti socialiste, on va dire. Et puis du coup...
Mais bon, c'est un acteur politique, le mouvement des sans terre.
Du coup, aujourd'hui, c'est toujours un acteur politique et c'est toujours un acteur qui dérange fortement. Et même le gouvernement de Lula, en fait, s'affronte aux paysans sans terre qui, eux, veulent des changements radicaux tout de suite, une vraie politique de réforme agraire, c'est-à-dire la terre accessible pour tous ceux qui veulent la terre. Et on considère qu'il y a 12 millions de paysans sans terre au Brésil, des gens qui sont prêts à se réinstaller, qui sont prêts à aller travailler la terre et au moins nourrir leurs enfants. Et donc les paysans sans terre, ils ont réussi à installer, en occupant la terre, des terres qui n'étaient pas utilisées, qui étaient un peu de l'extensif, du super extensif, voire simplement de la mobilisation de terres par les riches, l'accaparement des terres pour obliger les gens à aller travailler comme des esclaves en fait. Ça a toujours été la stratégie depuis le 19e siècle, depuis la fin de l'esclavage au Brésil, d'empêcher les pauvres de s'installer sur un bout de terre et de ne pas avoir à dépendre des riches, de ne pas avoir à servir les riches. C'est une technique qui a été utilisée au Brésil. Toutes les terres en fait sont accaparées. Elles sont accaparées par des gens qui ont dit « ça, c'est à moi. Si vous venez là, je vous envoie mes hommes demain. » Et donc, les pauvres n'ont pas de place pour s'installer. Ils sont obligés de rester travailler pour rien, pour des salaires de misère, soit en campagne comme ouvriers agricoles, soit dans les villes, dans les bidonvilles. Il y a une pression très très forte. Et donc, les paysans sans terre, eux, ont travaillé à la fois avec les gens des bidonvilles qui voulaient aller travailler la terre. Donc, travailler avec ces gens-là, travailler avec les gens qui habitent en milieu rural et qui voudraient avoir accès à de la terre, pour aller occuper donc à une centaine, 200, 300 000 personnes, occuper des terres, s'installer sur des terres pas valorisées et réclamer en fait l'application de la loi de la réforme agraire qui dit que toute terre doit être travaillée. La terre appartient à celui qui la travaille. Et donc après, ils se bagarrent en justice. Alors là, en général, le gouverneur local... de l'État local, met un peu de temps pour rassembler assez de militaires, de police, ça s'appelle policiers militaires, donc c'est la police militaire, pour venir attaquer les sans-terres et puis les chasser, parce qu'ils ne peuvent pas y aller à 50 du village d'à côté, en fait. Hein. Donc il faut rassembler suffisamment de forces armées pour pouvoir aller chasser ces mécréants. Et en général, ils s'installent donc sur le bord des routes, après ils font un campement. Et puis là, ils attendent une autre occasion pour de nouveau aller réinvestir la terre, planter, semer, tout ça. Et tout ça, ça a donné un mouvement extraordinaire, en fait. Hein. Pendant tout ce temps où ils campent au bord de la route, moi j'ai visité plusieurs campements comme ça, hein, tout le temps où ils campent au bord de la route, ils font un travail énorme d'alphabétisation, de lutte contre l'alcoolisme, d'organisation autour de la santé, de préparation après pour pouvoir devenir agriculteur, donc de formation. Ils perdent pas leur temps, en fait. Ils sont pas juste là à attendre on leur dit ce jour-là, on y va, on envahit la terre. Donc après, une fois qu'ils sont installés, il y a vraiment une vie collective qui peut se mettre en place. Et il y a eu différentes formes qui ont été utilisées selon les États et selon les groupes. Hein. Ça pouvait être des paysans qui s'installent sous forme de coopérative à travailler ensemble ou qui travaillent individuellement chacun sur leur lopin. Mais qui vont avoir une coopérative d'achat en commun, une coopérative de vente en commun, monter une petite entreprise de transformation. Enfin, il y a eu plein de formules différentes d'utiliser, mais c'est un modèle à la fois social et économique au Brésil qui a remis en cause beaucoup de choses.
Et est-ce que ça a dépassé les frontières du Brésil, en fait? Est-ce que, premièrement, l'aspect accaparement des terres, c'est un schéma qui a été repris et finalement qui a servi, qui a inspiré l'accaparement des terres qu'on voit aujourd'hui d'autres États? Et est-ce que la réactivité des paysans sans terre est quelque chose qu'on retrouve aussi ailleurs et qui est fédéré?
Alors, je ne sais pas exactement.
Alors, tu as 30 secondes pour répondre.
Voilà, je ne peux pas te dire exactement parce qu'au Brésil, je connais bien parce que j'y ai travaillé et j'ai étudié ce qui se passait, tout ça. J'ai rencontré plein de monde, entre autres, beaucoup discuté, beaucoup participé avec les sans terre. Les pays voisins, tout ça, chacun a son histoire, c'est un peu spécifique. Mais il y a toujours eu des bagarres par rapport à la terre, partout. Pour essayer d'installer, que les paysans puissent vivre de leur travail, que les gens puissent vivre sur un bout de terre et nourrir leur famille, c'est tout simple. Hein.
Mais Via Campesina, c'est quoi?
Donc il y a Via Campesina, par exemple, qui a fédéré tous les mouvements de paysans qui veulent pouvoir vivre de leur travail de paysans et qui se déclarent paysans, donc à travers le monde entier.
C'est une
et à travers
de,
les pays.
Le syndicat international des travailleurs de la terre.
Voilà, en fait, dedans, il y a aussi les travailleurs ruraux. Il n'y a pas que les petits propriétaires, comme il peut y avoir chez nous. Par exemple, la Confédération paysanne fait partie de Via Campesina. Donc c'est la voie paysanne, en fait, ça s'appelle Via Campesina, c'est la voie paysanne. Donc il y a des mouvements paysans de la terre entière, de l'Inde, de tous les pays d'Amérique latine et de tous les pays d'Europe. Et c'est une force, effectivement, c'est plutôt un syndicat paysan au niveau international. Ce mouvement, ça représente une intersyndicale de tous les groupements paysans qui luttent pour l'accès à la terre, l'accès au crédit, l'accès aux moyens de travailler correctement et de vivre de son travail, en fait, en tant que petit paysan qui fournit une alimentation pour le marché local, avant tout, et qui n'est pas dans le business de l'exportation, de faire du fric à travers... à travers la production agricole.
Et alors juste une dernière question. Tu disais le mouvement des sans-terre, c'est un acteur politique. Via Campesina, est-ce que c'est un acteur politique mondial ?
Via Campesina, c'est aussi un acteur politique hein, par rapport à un autre modèle agricole. Et leur grosse contribution, ça a été de promouvoir en fait, le droit à la souveraineté alimentaire. C'est-à-dire que la politique agricole, elle doit être décidée avec le peuple. Et on doit décider de la forme par laquelle comment on va produire et comment on va se nourrir. Donc c'est un choix qui doit dépendre des citoyens. Et ce concept de souveraineté alimentaire, il est repris aujourd'hui au niveau international. Et il est même repris localement par les groupes de... Non, pas d'AMAP. La MAP, c'est encore nos petits trucs à nous, nos bricolos, là. Mais la FRSEA, ouais. La FNSEA, par les syndicats majoritaires de l'agriculture européenne, qui aujourd'hui comprennent qu'ils sont menacés. Ils sont aussi, eux, comme les petits paysans dans les pays du Sud, sont menacés par l'agrobusiness. Aujourd'hui, les paysans chez nous sont aussi menacés par l'agrobusiness. Et donc, on a intérêt à s'unir, même les gros paysans d'ici, les moyens, on va dire, ont intérêt à s'unir avec les petits paysans africains pour défendre le droit à produire chez soi pour son marché local, avant tout.
Voilà. Céline Porcheron, merci beaucoup.
Une fois...
We worked for a while.
Vous écoutez Radio Campus, l'émission Panthère Rouge sur 93.3, émission que vous pouvez retrouver sur internet sur notre audioblog. Vous tapez audioblog.arteradio.com/pantherrouge, tout attaché, ou alors vous allez sur le site de Radio Campus, nous mettrons un lien vers l'émission. Alors nous terminons avec la chronique Femmes super-héros de l'émission, chronique réalisée par JM sur Marie Curie.
On vous dit Marie Curie, vous pensez à quoi ? Eh ben Pierre et Marie Curie, ils ont découvert la radioactivité, c'était au début du XXe siècle. Ok, mais vous avez remarqué comme Pierre s'est incrusté dans votre esprit directement ? C'est incroyable quand même. Certes, Pierre, il a fait des trucs. Mais comme on va le voir au fil de cette chronique, Marie Curie est une femme exceptionnelle, une vraie femme super-héros. Et pourtant, on dirait que l'histoire ne la retient que comme faisant partie du duo Pierre et Marie. Tiens d'ailleurs, pourquoi cet ordre dans les prénoms ? Tout pousse à utiliser Marie et Pierre, l'ordre alphabétique par exemple qu'on utilise habituellement, ou encore la galanterie. Il y a aussi la question du nombre des Nobel. Eh oui, Marie Curie a été la première personne à recevoir deux Nobel. Et pourtant, combien de rues, d'écoles, de structures portent le nom de Pierre et Marie Curie ? C'est frustrant, non ? Alors un peu d'histoire maintenant, pour raconter qui a été Marie Curie. C'était cette Polonaise du nom de Marie Skłodowska est née à Varsovie le 7 novembre 1867. Après un parcours scolaire brillant, elle se retrouve confrontée à l'interdiction des universités aux femmes et elle rejoint en 1891 la France pour poursuivre ses études en mathématiques et physique. Elle obtient en 1893 sa licence S sciences physiques en étant première de sa promotion, puis un an plus tard sa licence S sciences mathématiques en étant seconde. Bon, bah, on lui en veut pas. En 1896, elle est reçue première à l'agrégation de physique. Elle entame alors ses recherches sur le rayonnement de l'uranium pour son doctorat. Un an plus tard, Pierre, qu'elle a épousé en 1895, abandonne ses propres recherches pour la rejoindre dans ses études sur la radioactivité. Ils obtiennent en 1904, avec Henri Becquerel, le prix Nobel de la physique. En 1906, Pierre meurt renversé accidentellement par une voiture à cheval. Mais cette même année, donc Marie Curie remplace son ancien époux à son poste de professeur à la Sorbonne. Marie devient ainsi la première femme à enseigner dans cette université prestigieuse. En 1909, elle est nommée professeur titulaire dans sa chaire de physique générale, puis de physique générale et radioactivité. En 1911, on continue l'histoire, elle reçoit un deuxième prix Nobel de chimie cette fois-ci. Cette même année, elle rate de justesse sa nomination à l'Académie des sciences dans une atmosphère nauséabonde de misogynie, de xénophobie et d'antisémitisme. Peu après, l'affaire Langevin, pendant laquelle les journaux lui reprochent une relation avec un homme marié, continue de la déstabiliser. Elle réussira tout de même à faire face à ses tentatives de déstabilisation et continuera ses travaux comme directeur du laboratoire de physique et de chimie de l'Institut du Radium. Pendant la Première Guerre mondiale, elle participe à la conception de 18 unités chirurgicales mobiles qui seront au cœur du dispositif médical. Par la suite, très malade, elle décède en 1934 d'une leucémie, conséquence d'une trop longue exposition aux éléments radioactifs, sans pour autant avoir arrêté de diriger son laboratoire. Alors que retenir de cette vie exceptionnelle ? Souvent, quand on pose cette question, les gens ont tendance à parler d'une femme qui a dédié sa vie à la science, ils l'imaginent travaillant d'arrache-pied, scientifique au quotidien triste. En fait, c'est oublier plein de choses, c'est oublier qu'elle avait une riche vie sociale, très développée avec des amis, la famille, elle avait de nombreuses relations avec personnelles avec des scientifiques de renom. C'était aussi oublier ses prises de position discrètes mais fermes en faveur de la paix et de la condition des femmes. Si Marie Curie a choisi sciemment de ne pas s'impliquer dans le militantisme médiatique pour ses causes, sa fille Irène souligne, je cite, « son féminisme intransigeant, sa révolte contre l'état social actuel, son désir passionné de voir se réaliser une entente pacifique entre les peuples ». Donc en fait, en maîtrisant son image publique, Marie Curie a profondément marqué par son comportement la cause du progrès social par la science, la volonté de compréhension internationale entre les scientifiques, la cause démocratique et celle de la paix, la cause des femmes et de leurs droits. Sa vie est l'illustration parfaite de ce qu'est le militantisme par l'exemple. Alors, si on voulait résumer en quelques mots-clés à quel point Marie Curie est une femme super-héros, on pourrait faire la liste suivante. Alors, c'est la première femme à recevoir un prix Nobel. C'est la première personne à recevoir deux fois un prix Nobel. C'est la première femme lauréate de la médaille Davy. C'est la première titulaire d'une chaire à la Sorbonne. La première directrice d'un laboratoire en France. Et c'est la seule femme à ce jour au Panthéon en son nom. Donc, À cette période où les femmes devaient se battre pour simplement exister, par exemple, elles n'avaient même pas le droit d'avoir de compte en banque, ou encore, on leur demandait d'être des pondeuses et guère plus, eh ben, je trouve ça vraiment époustouflant.
À sa fin, émission qui a été réalisée par Lise, Claire et Cécile. Alors, que faut-il retenir de ces sujets ?
Alors, pour ma part, je dirais que les paysans doivent décider avec les citoyens de qu'est-ce qu'on produit et comment, quelle santé, quel environnement.
Et puis moi, pour ma part, je dirais qu'il faut annuler la dette, et pas que celle du tiers-monde, toutes les dettes de tous les États. Et il faut arrêter de donner de l'argent aux structures, aux banques qui en ont déjà.
Bien, alors nous remercions très chaleureusement Céline Porcheron qui est venue nous parler donc de ce qui se passait, de la situation de l'agriculture mondiale et particulièrement de la situation au Brésil. C'est très intéressant. Et donc nous remercions également les Clermontois donc réunis en masse devant les studios de Radio Campus pour nous soutenir et nous encourager. Merci Clermont-Ferrand. Et nous vous informons également que samedi prochain à 17h au café Lecture Les Augustes, eh bien une conférence débat est organisée par les amis du monde diplomatique avec l'intervention de Pierre Stambul. Donc conférence et débat organisée avec le soutien de l'Union juive pour la paix. Évidemment, vous êtes les bienvenus.
Et je rajoute qu'il y a une autre conférence qui est vraiment trop bien, donc c'est jeudi prochain. C'est Bernard Friot qui vient parler de l'enjeu des retraites. Bernard Friot, on l'a interviewé, donc vous pouvez retrouver l'interview sur Internet, mais en gros, c'est un sociologue qui dit que la retraite est un salaire continué et que c'est un salaire qui échappe finalement aux banques. Finalement, nos retraites sont subversives et donc il a un discours assez intéressant sur le travail. C'est à 20h30 à la Maison du Peuple. Donc nous, on se retrouve dans 15 jours. Je ne sais pas combien on sera le 14, quelque chose comme ça.
Voilà, dans ces eaux-là.
Et d'ici là, surtout, comme dit l'ami Colin,
ne lâchez rien.